Les sacs à dos, l'émission qu'il vous faut pour parler archéo. Bienvenue sur Transistor dans l'émission concoctée par Archéolab et les étudiants du master médiation du patrimoine, de l'histoire et des territoires de l'Université de Rennes 2. Cette année encore, nous allons vous emmener à la découverte des patrimoines archéologiques et nous irons rencontrer ensemble tous ceux qui contribuent à les faire connaître.
Bonjour, cette émission est réalisée par Alexane, une étudiante en Master 2 de médiation de l'histoire, du patrimoine et des territoires à Rennes 2. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Bastien Sémier, archéologue à l'INRAP. Il est intervenu plusieurs fois auprès de différents publics dans le cadre de fouilles archéologiques et notamment sur trois sites se trouvant à La Mézière, une commune au nord de Rennes. Non loin du bourg, il a travaillé sur les fouilles de la ligne de la Gonzée et de la Bovérie, mais également sur celle de la ferme Biette, qui se trouve à une cinquantaine de mètres de l'église. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup de me recevoir dans le cadre de cette émission de radio.
Oui.
Donc ma première question, ça va être sur le fait que vous avez travaillé sur les fouilles de la ligne de la Gonzée, mais aussi de la Bovérie et de la ferme Biette. Est-ce que déjà vous pouvez expliquer ce que vous avez trouvé là-bas ?
Alors ces différentes fouilles ont été réalisées avant les constructions de lotissements, dans le cadre de l'archéologie préventive. Et sur la Mézière, on sait depuis longtemps qu'il y a un gros site d'époque romaine, probablement une villa, c'est un grand domaine agricole avec en son centre une riche demeure. Donc on a fouillé autour du bourg, hein, et on a toute la partie agricole de cette villa, et il nous manque la demeure en soi, que je suppose se situe quelque part sous le bourg, possiblement sous l'église. Voilà, donc ça c'est dans l'état actuel de notre recherche, c'est ce qu'on pense. Et on va pas démolir l'église, donc en tout cas à moins qu'il y ait des travaux autour. Mais toutes les données qu'on a eues sur les lignes de la Gonzée, à la Bovérie, etc., nous indiquent qu'on a vraiment quelque chose de très important. Et d'ailleurs, le toponyme La Mézière veut dire la masure, les vieilles pierres, les vieilles ruines. Et c'est un toponyme ancien, donc ça fait déjà depuis le Moyen-Âge qu'on dit qu'il y a des ruines à La Mézière. Donc c'est possiblement les ruines de cette villa romaine.
Aussi, quelle était la portée finalement de vos trouvailles là-bas ?
Alors, sur les lignes de la Gonzée et à la Bovérie, on avait donc toute la partie agricole, une partie de la cour agricole de cette villa, donc c'est une grande cour, de près de 250 mètres de long sur une centaine de mètres de large, c'est vraiment très très grand, autour duquel on va avoir des petites parcelles dans lesquelles va prendre place toute l'activité agricole, donc des champs, des espaces pour le bétail, mais aussi tout l'habitat paysan, tous les ouvriers paysans qui travaillaient pour ce grand domaine étaient en fait parqués dans des sortes de lotissements autour de cette grande cour. Donc nous on a retrouvé ça, les restes de leurs maisons, qui sont très mal conservés parce qu'à La Mézière on n'a pas de pierre en sous-sol, donc on construit en bois ou en terre, et ça laisse pas de traces, ou très peu de traces. Donc ce qu'on va retrouver nous, c'est plutôt des objets de la vie quotidienne qui sont rejetés dans des fossés qui organisaient ces espaces. Voilà, de la céramique, de la vaisselle, de table de l'époque, des objets en fer, voilà tout ce qui reste. Mais les maisons, par contre, on les a quasiment pas, quoi.
Oui.
Là, on travaille avec du vide, hein. Les maisons en terre, une fois qu'elles sont abandonnées, elles disparaissent complètement, donc on n'a rien, quoi. Par contre, on peut avoir les fosses qui ont servi à extraire l'argile pour les construire. Donc on va avoir des grandes fosses qui servent à construire ces maisons. Donc on n'a pas la maison, mais on a la fosse qui a permis de faire cette maison. Donc on va travailler avec le vide, mais malgré tout, on arrive à reconstituer quand même comment s'organisait cette vie paysanne à l'époque romaine autour de cette grande villa. Voilà. Pour l'instant, c'est toutes ces données-là qu'on a sur une grande surface, puisque les différentes fouilles ont couvert quasiment 7 hectares, hein, si je me souviens bien, donc c'est quand même déjà une grande vision. Mais pour comprendre ces sites, il faut quasiment fouiller 15-20 hectares, ce sont vraiment très très étendus, donc on a pas tout. Puis il y a le bourg actuel qui est dessus. Donc on était intervenu sur la ferme Biette, en plein bourg, en espérant justement aller au plus près de l'endroit où se situerait la demeure antique, mais on n'était pas dessus et du coup on n'avait pas assez de vestiges. Il y avait quelques petites choses, plutôt d'époque médiévale, puisqu'il y a l'époque romaine bien sûr, mais il y a aussi l'époque médiévale, hein, le bourg médiéval de La Mézière, et les lignes de la Gonzée, hein, qui sont un ouvrage assez énigmatique pour le secteur, sur lequel on a travaillé, et qu'on pense être des lignes de défense de la fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge, pour protéger le bassin rennais. Puisqu'à La Mézière, il y a aussi une grosse voie romaine qui passe, la voie qui reliait Rennes à Corseul, une autre grande ville antique, Et cette voie, elle servait probablement aux pillards pour rejoindre les grands centres urbains et aller les attaquer. Donc il y a eu probablement cette ligne de la Gonzée qui est créée pour arrêter ces pilleurs. Enfin, c'est une des hypothèses qui est mise, sur laquelle il faut encore qu'on travaille, mais les fouilles de la fouille de la ligne de la Gonzée et de la Beauverie ont permis d'étudier une portion de cette ligne de la Gonzée qui s'étendait sur plusieurs kilomètres de part et d'autre de la voie romaine.
Vous me posez aussi une question par rapport à cela, puisque j'avais vu effectivement en amont que vous soupçonniez, comme vous l'aviez déjà dit, que la logis, je crois que c'était ça, c'était le logis de la villa romaine qui, possiblement, qui pouvait se trouver sous l'église. Mais du coup, est-ce que c'est pas décevant quelque part de ne pas pouvoir fouiller plus près de l'église finalement pour en savoir plus?
Si, alors le logis, ce qu'on appelle la pars urbana, la partie urbaine de cette villa, on aimerait bien la trouver. Et c'est pour ça que suite aux fouilles de la Beauverie, j'ai incité fortement à ce qu'on aille vérifier chaque construction autour de l'église dans le bourg. Donc c'était le cas de la ferme Biette. Hein. Là, il y avait une occasion d'aller voir. Et même s'il y a des constructions modernes dessus, une fois qu'elles sont détruites, on peut aller voir en dessous s'il n'y a pas des choses qui restent. Il aurait fallu aussi aller voir quand les réseaux électriques avaient été refaits autour de l'église, mais il n'y a pas eu de suivi à l'époque. Et à la Mézières, il y a quand même eu quelques ratés. Il n'y a pas eu des suivis régulier. En fait, la première fouille sur les lignes de la Gonzée en 2016, c'est finalement la première vraie fouille, mais le lotissement, il y a eu un lotissement qui était construit juste avant et qui n'a pas été surveillé, et des choses ont été détruites, et c'est dommage. Donc bon, voilà, on est frustré, oui, il faut qu'on soit attentif s'il y a d'autres constructions dans le bourg, même des petites surfaces, d'aller voir. Après, je pense sincèrement, enfin, tout me laisse à penser que c'est vraiment sous l'église. Et là, ça va être compliqué d'aller voir, à moins qu'il y ait un travail d'installation de gaines électriques ou ce genre de choses autour ou au pied de l'église ou dans l'église. Et là, pourquoi pas, on pourrait avoir des informations. Mais l'église est sur un peu surélevée par rapport au reste du bourg, ce qui intrigue. Alors, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. L'une d'entre elles, ce serait que il y a la villa romaine, enfin, la pars urbana de cette villa. Et au-dessus peut-être un autre bâtiment tardif, puis la première église, puis différentes églises qui se sont empilées, qui ont progressivement fait monter le sol. Et l'église actuelle vient au sommet de tout ça, et donc pour ça qu'elle est peut-être un peu surélevée. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas une preuve concrète de ça, c'est que des hypothèses, quoi. Mais voilà. On y pense fortement. En plus, voilà, cette grande villa, les terres autour de la Mézières sont des bonnes terres agricoles, donc il y a potentiellement une source de richesse importante. Hein. Une villa est riche par son foncier, c'est ce qui fait ces grands propriétaires terriens à l'époque, ils possèdent plusieurs centaines d'hectares, font leur richesse parce que les sols sont bons, c'est probablement le cas à la Mézières. Et il y a d'autres indices qui nous font penser qu'on a une très très grande villa, c'est que la voie romaine dont je parlais tout à l'heure, qui allait de Rennes à Corseul, c'est des grandes droites. Les Romains font des lignes droites, hein, quand ils tracent des voies, sauf à la Mézières, où on a la voie, elle évite, elle contourne le bourg de la Mézières. Donc ça c'est louche, c'est pas du tout logique. Donc peut-être que là, le propriétaire, au début de l'époque romaine, le grand propriétaire de cette villa, a fait détourner la voie pour pas que ça passe en plein milieu de son domaine. C'est aussi une hypothèse. Voilà, c'est sur lequel. Voilà, tout ça, c'est des hypothèses à partir des données de fouilles, des dernières fouilles qu'on a faites, mais il faut étayer tout ça, quoi. Voilà, on émet des hypothèses, après, il faut les vérifier, et tant que ce n'est pas vérifié, ça restera des hypothèses.
Aussi, suite aux fouilles de la ligne de la Gonzée, il y a certains éléments qui ont été exposés donc dans la Mézières. Je pense notamment à la croix. Enfin, sous la croix de la Mézières, il y a. Alors, c'est un sarcophage, il me semble. Comment ça a été choisi? Pourquoi, finalement, tout cela, ça a été exposé? Et quelles sont les motivations?
Alors, c'est lors de la première vraie grande fouille des lignes de la Gonzée, il y a eu une nécropole qui a été retrouvée, une très importante nécropole hein, de plusieurs centaines de tombes, qui sont datées de la fin du début du Haut Moyen-Âge, hein, fin de l'Antiquité, entre le 5e et le 6e, 7e siècle. Et parmi les individus inhumés, certains avaient le droit à un sarcophage en calcaire, coquillé. Et ces sarcophages-là sont assez rares, hein, et sont toujours intéressants quand on les trouve. Et donc il y a eu des portes ouvertes lors de cette fouille, et ces sarcophages, et ben, ils étaient là, ça a intéressé les habitants de la commune, la mairie. Et nous, en fait, ils sont difficilement conservables, ces sarcophages. Déjà, il y en a plein ailleurs, hein, donc c'est pas quelque chose qu'on a obligation de garder et qui sont très difficiles à garder parce que très fragiles. Donc en fait, ils vont se détruire s'ils sont pas conservés en mettant du béton autour ou en les noyant dans une matière qui va les maintenir. Et c'est ce qui a été fait ici à La Mézière, si je me souviens bien. La mairie a souhaité récupérer ces sarcophages et donc s'est chargée elle-même de les stabiliser pour les exposer et garder une trace de ça. Voilà. Donc ça, c'est un choix de la mairie. Ça aurait pas été ce choix-là, nous, on les aurait démontés et ils seraient partis certainement en poussière. Voilà. Après, le sarcophage en soi, il a un intérêt quand on l'a fouillé, qu'on a fait sa fouille, qu'on est allé voir l'individu qui était inhumé dedans, puisqu'il était conservé. C'est ça aussi l'intérêt de ces sarcophages en calcaire, c'est qu'à La Mézière, les sous-sols, c'est des limons qui sont très acides, et en fait, ça mange tous les ossements. Donc en fait, dans les tombes qu'on avait, quasiment, enfin très peu de tombes avaient encore les ossements à l'intérieur conservés. Sauf dans les sarcophages en calcaire, puisque le calcaire a conservé les squelettes. Donc c'était ça aussi le côté sympa de ces squelettes, enfin de ces sarcophages. Mais nous, on a fouillé le squelette, on a pris des photos du sarcophage en place. Une fois que ça c'est fait, le sarcophage en soi, il n'a pas une grande valeur. Donc là, il a été laissé sur place et la mairie s'en est chargée après. Voilà. Okay. C'est bien de laisser une trace localement, hein, c'est toujours important.
Oui, et puis de montrer finalement aussi aux habitants ce qu'il y avait là.
Oui.
C'est dans cette optique-là aussi, peut-être.
Ça, c'est une volonté de la commune, tout à fait, ouais.
Alors aussi, dans le cadre des fouilles de la ligne de la Gonzée, donc toujours les mêmes fouilles, il y a eu des actions qui ont été menées auprès des publics, notamment auprès des habitants de La Mézière. Donc quelles étaient ces actions?
Alors, lors de la fouille des lignes de la Gonzée, il y avait une très grande porte ouverte. Donc ça a attiré un bon nombre de personnes. Après, sur la ZAC de la Beauvairie, on n'a pas fait de porte ouverte parce qu'on était en hiver et que c'était très compliqué de faire venir des gens. Donc là on n'a rien fait. Ce qu'il y a eu, par contre, c'est une conférence grand public à l'issue de ces fouilles, hein, ce qu'on fait, petite exposition, panneau, conférence grand public, qui permettent de montrer à la population ce qu'on a trouvé, ce qu'on en a compris, et voilà. Et ça, on le fait régulièrement, hein, sur toutes les fouilles, voilà. Quand on peut, on fait des portes ouvertes, on fait venir les scolaires sur place. Quand c'est pas possible, on fait ce travail-là après, dans le cadre de conférences ou d'aller dans les écoles. Voilà, c'est... Donc, toutes ces actions ont été faites à La Mézière pour les deux grandes fouilles précédentes. Là. Depuis, il n'y a pas eu de fouille, donc on est resté là. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'issue d'une fouille, il y a un rapport qui est réalisé, un rapport de fouille qui va recenser tout ce qu'on a trouvé, tout ce qu'on a compris. Et ces rapports de fouille, ils sont accessibles sur Internet. Donc n'importe qui peut aller. Il faut aller sur la bibliothèque du service régional de l'archéologie de Bretagne et taper La Mézière, et vous aurez tous les rapports de fouilles de La Mézière, et donc tout est accessible pour n'importe qui, quoi. Alors c'est des rapports un peu, pas forcément faciles à lire, mais c'est quand même une synthèse qui retrace simplement les choses. Et après, il y a toujours un travail de recherche qui est en cours, hein, sur ces sites-là, qui sont valorisés dans des articles scientifiques, qui sont aussi accessibles sur Internet en partie, quoi. C'est comme ça qu'on valorise nos découvertes, quoi. Après, il y a très peu d'objets en soi qui sont sortis de ces fouilles. Donc, et puis les objets, malheureusement, ils sont conservés dans les dépôts de l'État et ils peuvent pas être en permanence sur les communes, dans la commune, parce qu'il faut pouvoir les conserver dans une vitrine protégée. Et puis tout ne se tient pas très bien. Donc ça, c'est difficile de garder sur place des vestiges en soi, quoi. Sauf le sarcophage, là, c'est un des rares qui reste. Et puis les lignes de la Gonzée sont encore là, hein, sur une grande portion, hein. Donc ça, c'est un ouvrage qui est vraiment très rare et qu'il faut conserver, je pense, dans votre commune.
Oui. Quelles étaient du coup les motivations et les enjeux derrière ces actions?
Les actions de communication.
Les actions qui sont menées auprès des habitants pour valoriser.
En fait, le but de l'archéologie, c'est de comprendre comment on en est arrivé là, comment les paysages se sont formés, pourquoi le bourg de la Mézière s'est construit là, comment on en est arrivé ici, comment les paysages se sont transformés par l'action de l'homme. Donc, le but, c'est de comprendre ça, et puis après, c'est d'expliquer aux gens qui vivent sur place ce qu'on a compris, hein. Donc, c'est le principe de notre métier. Donc, valoriser en expliquant ça à la population, c'est la base de notre travail, en fait. Voilà, c'est le sens même de notre travail. Donc voilà, là on sait pourquoi le bourg de la Mézière est là. Enfin, on en a de plus en plus la preuve que c'est suite à une occupation romaine importante. Voilà, après on essaie de comprendre comment les paysages se sont formés. Et ça, c'est... Voilà, c'est... Sur la Mézière, on a déjà fait un gros travail. Et surtout le bassin rennais, on a pas mal d'éléments, donc on arrive à restituer les choses. Et voilà, le but, c'est d'expliquer aux gens pourquoi c'est comme ça, et peut-être en tirer des leçons pour les aménagements à venir.
Finalement, quelle réception vous avez eue de la part des habitants de la Mézières et peut-être des habitants alentour vis-à-vis de ces actions que vous avez menées de valorisation?
Alors, on est toujours bien accueillis. Hein. De toute façon, quand on fait une porte ouverte, les gens qui viennent, ils sont intéressés. Mais on n'a jamais de problème. Les gens sont toujours contents de voir ce qu'on fait, de comprendre comment on travaille et puis après de comprendre ce qu'ils ont sous leurs pieds. Et ça, on est toujours bien accueillis. Et à la Mézières, on a été en plus bien accueillis par la commune, avec une municipalité qui a été ouverte à tout ça et qui a compris l'intérêt. Donc ça, c'est un atout aussi, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là, il n'y a pas eu de problème à la Mézières, que ce soit la collectivité et la population ont été attentifs et intéressés à ce qu'on a fait et ont compris.
Et sinon, plus généralement, comment est-ce que vous valorisez les résultats de fouilles auprès des habitants des communes alentours? Donc vous avez dit qu'il y avait toujours des conférences, hein, c'est ça? Est-ce que c'est toujours le cas? Et puis finalement, comment plus largement créer du lien entre le travail de l'archéologue et les habitants de l'endroit où il y a les fouilles?
Le lien avec les archéologues et les habitants, c'est quand il y a une fouille. Il faut qu'il y en ait. Le temps de la fouille, c'est court, hein. C'est quelques mois, donc c'est très rapide. Donc il faut que, durant ce temps de fouille, on fasse venir les gens du secteur qui puissent voir les choses quand c'est possible. Après, on valorise après le rendu du rapport de fouille, ce qu'on a compris au travers des conférences. Et une fois qu'on a fait ça, effectivement, après ça s'arrête un peu. À moins qu'il y ait des associations locales qui cherchent à nous faire revenir régulièrement. Mais finalement, c'est quand même la fouille qui est le moteur de la relation. Donc s'il n'y a pas de fouille, c'est sûr que la relation... elle s'arrête, entre guillemets, mais ce qu'on a compris et ce qu'on a écrit reste. Le rapport de fouille, l'écrit est là et restera longtemps. Et peut-être que plus tard, il y aura de nouvelles découvertes. Et de toute façon, c'est un travail sur le temps long. Et après, il reste toujours les musées. Hein. Le musée de Bretagne peut accueillir des collections de certaines fouilles. Il va y avoir des expositions. Mais c'est toujours pareil sur un temps long et sur des choses plus générales, sur l'époque romaine en Bretagne, sur d'autres choses, où on va reparler de la Mézières ponctuellement sur un sujet. C'est le cas souvent à la Mézières par rapport à la nécropole qu'on a trouvée, qui était quand même une nécropole assez importante en nombre de tombes. Et ça revient régulièrement dans les recherches, dans les colloques, et dans les expositions. Donc oui, on en parle souvent. Mais c'est du temps long et le lien avec la population, il peut se perdre un peu. Ça peut aussi rester à travers des panneaux qu'on peut mettre sur place, hein. Mais ça c'est à la demande des collectivités, mais on peut avoir des panneaux explicatifs à l'issue d'une fouille. C'est souvent le cas, quand c'est un lotissement, on va baptiser une rue avec le nom d'un des vestiges qui a été présent, on va mettre un panneau pour expliquer ce qu'il y avait, et ça peut rester, ça reste longtemps, quoi. C'est une façon de conserver ça sur le long terme.
Donc vous aviez pris part aux ateliers de consultation, il me semble, de consultation publique, qui ont eu lieu entre la municipalité et les Massériens concernant le projet d'urbanisme de la réalisation entraînée, donc la démolition de la ferme Biette. Quel était votre rôle dans ces discussions?
Alors, notre rôle, il était juste de sensibiliser sur le fait qu'on est dans une zone archéologiquement sensible, très sensible, très près de l'église. Donc même s'il y avait une construction présente sur la parcelle, la ferme, nous on pensait qu'en dessous il y avait encore des vestiges conservables. Et c'était le cas puisqu'on est venu faire des vérifications, on a trouvé des vestiges anciens. Mais nous, notre lien avec ce projet, c'est surtout de dire attention, là si vous voulez aménager ce secteur, il faudra faire des vérifications archéologiques. Et ça c'est pas moi qui le dis, hein. Moi je l'ai mis en valeur à travers les fouilles précédentes, et après c'est l'État, via le service régional de l'archéologie, qui va dire aux collectivités, attention, si vous voulez construire ici, vous devrez faire une vérification archéologique, et s'il y a quelque chose, potentiellement faire une fouille, ce qui peut coûter un peu d'argent. Donc là moi j'étais allé vérifier, on a trouvé une portion des lignes de la Gonzée, on a trouvé des vestiges toujours de l'habitat paysan qui entoure la villa certainement. Mais là, il n'y a pas eu de fouilles complémentaires, il y a juste eu une vérification. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait des fouilles complémentaires, il n'y en a pas eu, mais ça, c'est un choix qui se fait, on ne peut pas tout fouiller non plus. Hein. On va garder nos billes pour un prochain coup, mais c'est sûr que s'il y a d'autres choses dans le secteur, il faudra qu'on soit très attentif. Surtout qu'à l'école, qui était à côté de la ferme Biette, dans les années 90-2000, quand ils ont construit l'école, il y avait des choses visiblement dans ce secteur-là, des urnes, apparemment des urnes funéraires antiques, qui ont été vus par des riverains quand il y a eu des terrassements, mais il n'y avait pas de vérification archéologique à l'époque. Enfin, le travail n'avait pas été fait. Donc, il y a eu des ratés dans ce secteur-là. Donc, Donc on était sensible d'aller y voir de plus près. Mais voilà. Après, voilà, notre rôle est de dire attention, si vous construisez dans le bourg, il faut qu'on aille faire notre travail avant que vous construisiez. Quoi.
Ok, donc finalement, c'est pas du tout systématique le fait de faire ces fouilles préventives.
Oui et non, c'est systématique si vous êtes dans un environnement archéologique qui est connu. Le bourg de la Mézière, justement, suite aux grandes fouilles de la Beauvairie des lignes de la Gonzée, on a fait ce qu'on appelle un zonage archéologique, c'est-à-dire qu'on a ciblé les parcelles dans le bourg et autour du bourg où on présume qu'il va y avoir des vestiges. Et donc là, c'est marqué dans les PLU que c'est en zone archéologique sensible. Et donc, s'il y a un projet de construction, s'il y a un permis de construction déposé, ça va forcément remonter au service de l'État, au service régional de l'archéologie, qui va dire, ah, là, on va construire sur cette zone sensible, vous devez, il y a un arrêté qui est préfectoral, qui va dire, ah, vous devez faire des vérifications archéologiques. Après, c'est pas parce qu'on vérifie qu'on va faire des fouilles, ça va dépendre de la nature des vestiges, s'ils sont bien conservés ou pas, si ça mérite ou pas. Donc, mais la vérification, normalement, elle est systématique dans le bourg de la Mézière. Elle devrait. Après, il y a toujours des fois des ratés, hein, on va pas se mentir. Mais techniquement, une construction dans le bourg de la Mézière devrait être accompagnée d'un suivi archéologique. Après, des fois, il y a un immeuble, si c'est un immeuble moderne avec un sous-sol, une cave, où, bah, on sait qu'on va rien trouver. Ça a déjà été détruit. C'est pas parce qu'on construit dans le bourg qu'on va venir faire des fouilles. Mais s'il y a un jardin, des espaces qui n'ont pas été trop remués récemment, et ben là, il y a un potentiel et on ira voir. Et il y a eu la ferme Biette, mais il y a eu deux autres petites opérations dans le secteur du bourg qui ont été faites, hein, déjà, c'est assez régulier, c'est très rapide, hein, mais ça n'a pas non plus donné des fouilles, quoi. Parce que je pense que vraiment, c'est sous l'église, et si on n'est pas au niveau de l'église, ou au sud de l'église, mais là, c'est déjà bien construit, donc c'est déjà trop tard, oui. Malheureusement. Et c'est la frustration de l'archéologie, mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça, il faut faire avec.
Surtout aussi qu'autour de l'église, c'est très bétonné, finalement, puisque c'est la route, c'est tout ça, donc finalement, effectivement, c'est compliqué d'aller creuser là-bas.
Oui, mais des fois, sous les routes, il suffit d'enlever le goudron, on est directement sur les vestiges archéologiques, en fait. C'est pas parce qu'il y a une construction qu'il n'y a rien en dessous. Ça dépend. C'est très variable. Une maison, par exemple, construite jusqu'au début du 19e, 20e siècle, elle n'a quasiment pas de fondation. Donc en fait, si vous la démolissez, en dessous, le sous-sol, il n'est pas forcément très impacté. Donc on peut avoir des vestiges conservés. Par contre, des constructions plus modernes, après-guerre, où on fait des dalles de béton, et là, oui, là, sous l'école, par exemple, on sait qu'on ne retrouvera plus rien. Elle a tout détruit, c'est sûr. Par contre, la ferme Biette n'avait pas tout détruit. Il y avait encore des vestiges en dessous. Donc voilà, ça dépend. C'est vraiment du cas par cas, là. Et là, c'est l'État qui décide si c'est nécessaire ou pas d'intervenir et de vérifier.
Peut-être qu'un jour, l'État décidera de faire des fouilles à cet endroit-là, c'est ça?
Alors, ce n'est pas l'État qui décide de faire... Enfin, c'est elle qui décide s'il faut ou pas faire des fouilles, mais ce n'est pas elle qui va dire qu'il faut fouiller. Il faut qu'il y ait un projet de construction. Moi, je fais de l'archéologie dite préventive. C'est-à-dire qu'on n'intervient que s'il y a un projet de construction. Voilà, donc il faut un permis de construire, un dépôt de permis de construire pour que ça enclenche le processus. Voilà, on ne vient pas comme ça en disant on va fouiller là. Voilà, c'est une démarche. Voilà. Après, il y a d'autres types d'archéologie qui sont faits plutôt par des universitaires où là on peut venir juste fouiller pour fouiller, mais c'est des cas très particuliers et ça nécessite des financements publics. Enfin, c'est un autre cas de figure. Voilà, moi je fais de l'archéologie préventive, donc on fouille avant les constructions.
Aussi, j'avais lu qu'en 2022, vous aviez parlé de votre profession à une classe de 6e, et vous aviez parlé aussi un peu plus tôt du fait que vous aviez accueilli des classes de scolaires aussi dans le cadre de vos fouilles. Comment est-ce qu'on parle de l'archéologie à des enfants, et comment est-ce qu'on adapte finalement son discours pour en parler?
Ça dépend de l'âge des enfants, évidemment. Ça dépend du travail qui est fait à l'école par leurs professeurs en amont aussi, évidemment. Après, à l'INRAP, donc... Institut National de Recherche Archéologie Préventive pour lequel je travaille, ça fait partie de nos missions d'aller dans les écoles, au grand public et de montrer notre travail. Et donc on a du matériel pédagogique adapté à chaque tranche d'âge avec un discours, on a des maquettes, des visuels, une série d'éléments qui nous permettent d'aller voir ces écoles et de leur montrer ce qu'on fait. Après, le mieux c'est de visiter les sites archéologiques en cours de fouilles. Ce qui n'est pas toujours quand même évident, puisque les vestiges ne sont pas toujours visibles ou compréhensibles. Et même des fois pour les adultes, c'est dur d'expliquer ce qu'on fait et ce qu'il y a. Voilà, la plupart de nos vestiges, ce n'est pas des murs avec des mosaïques. Hein, donc c'est des choses plus simples, souvent très simples Voilà, une maison en bois, souvent, c'est juste des fosses dans lesquelles il y avait les poteaux en bois, donc on n'a que les trous dans lesquels il y avait les poteaux. Difficile de restituer une maison, et ça, des fois, quel que soit l'âge, c'est dur de comprendre. Mais avec tous les visuels et tout ce travail pédagogique qu'on fait depuis des années, on arrive à faire comprendre aux enfants, et ça marche assez bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait toute l'année à travers toute la Bretagne et toute la France. Voilà, ça fait partie de nos missions, donc on s'y attelle.
Et donc finalement, quels sont les enjeux de faire du lien avec le public en tant qu'archéologue ?
C'est d'expliquer ce qu'on fait, hein. C'est de montrer l'intérêt de notre travail, hein, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas à quoi sert l'archéologie. Pourquoi on remue des mètres cubes et des mètres cubes de terre, pourquoi on dépense des... Enfin, pourquoi ça coûte aussi, parce que ça coûte, hein. Alors c'est celui qui construit, qui casse, qui paye la fouille, hein. C'est pas l'argent public, hein, qui est mis là lorsque c'est la fouille, hein. C'est vraiment le casseur qui paye, alors, même s'il y a des mécanismes d'aide, hein, qui rentrent là-dedans, mais donc il faut expliquer tout ça pour que les gens comprennent, hein, et c'est important de faire ce lien-là, et puis ouais, il faut expliquer l'intérêt de notre métier pour qu'il continue, pour que ça continue. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on est un des rares pays où on a de l'archéologie aussi récurrente, quoi. Il y a un des rares pays où il y a une loi qui oblige à fouiller avant les constructions. Et ça, et on est souvent attaqué. Il y a des lois qui visent à restreindre ça, à arrêter ça. Donc si on veut défendre notre métier, il faut qu'on l'explique, il faut savoir l'expliquer. Puis de toute façon, encore une fois, on ne fait pas ça que pour nous, on fait ça pour les gens qui vivent ici, pour expliquer ce qui se passait avant. Après, il y en a qui ne comprennent pas à quoi ça sert, mais bon, dans les faits, beaucoup de gens comprennent. Et une fois qu'on leur explique, ils voient l'intérêt de la chose. Nous, on intervient avant la bétonisation, hein. Là, on mange de la terre agricole partout dans le bassin rennais. C'est bien de mettre un peu de sens dans cette bétonisation. Expliquer, voilà, c'est comment on en arrive là aujourd'hui, et l'archéologie, elle a son rôle là dans cette démarche de construction, je trouve en tout cas.
C'est vrai que l'archéologie, c'est comme un premier pas vers l'histoire qui est très important finalement.
Oui, l'histoire c'est important. En fait, on est un peu des enquêteurs dans le sens où l'histoire, elle se fait pas que dans les livres. Elle peut être modifiée, l'histoire, suivant qui la raconte. On peut mettre ce qu'on veut dans un fait historique et le transformer, mettre une réalité politique actuelle sur quelque chose qu'on interprète d'une époque ancienne, sur lequel on a des fois que des textes qui sont écrits par certains types de personnes qui ont leur point de vue et qui n'est pas forcément la réalité. L'archéologie vient amener des preuves. Nous, on vient prouver, on a des choses concrètes, des faits. Donc on peut montrer qu'il y a des moments donnés dans l'histoire, il y a des arrivées de population, des départs de population, des changements de régime, des changements de pratiques agricoles. Et ça, on le prouve, c'est pas juste des textes qui le disent, nous on le prouve, et des fois on va en contradiction de ce qui était pendant longtemps pensé. Je sais pas, je peux donner un exemple, on parlait à l'époque gauloise, il y a des forêts partout, on pensait à Astérix Obélix. Eh ben non, à l'époque gauloise, c'est une époque où on a beaucoup enlevé les forêts, complètement déforesté les paysages, et à l'époque romaine, visiblement, c'est l'inverse, les forêts reviennent. Donc des choses comme ça, enfin, c'est des détails, mais on peut parler aussi des migrations de la fin de l'Antiquité, les invasions soi-disant, on met ce qu'on veut là-dedans, la réalité, elle est différente, en fait, elle est beaucoup... Et donc l'archéologie vient apporter des preuves ou des éléments de compréhension et qui permettent d'amener un peu de nuance et de réfléchir sur pas mal de choses. Voilà, on est des enquêteurs du passé, quoi. On vient amener les preuves de ce qu'on dit. On essaie en tout cas.
Effectivement, très important. Vous avez sûrement rencontré des difficultés à un moment donné quand vous avez été en lien avec du public en tant qu'archéologue. Quelles ont été ces possibles difficultés ?
Avec le public, il n'y a pas vraiment de difficultés. Il y a des gens qui veulent pas comprendre ou qui sont pas intéressés par le sujet et qui peuvent venir pour le dire. Et ça, il n'y a pas de souci, mais c'est assez rare quand même. Dans l'ensemble, ça se passe très bien. Franchement, il n'y a pas vraiment de difficultés. Les difficultés, elles ont plus lieu quand elles arrivent avec des fois des aménageurs, des constructeurs qui ne comprennent pas pourquoi on les retarde, pourquoi on fait ça, pourquoi il faut que ça... Quoi ça coûte. C'est plus là que ça peut arriver, mais en fait, en réalité, dans l'ensemble, ça se passe bien. C'est vraiment ancré aujourd'hui dans la réalité. L'archéologie, on fait des dizaines de fouilles, enfin, on est partout sur le territoire, donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs, on va dire, donc on n'est pas trop embêté, vraiment. Non, non. La relation avec le public, elle se passe très bien, il n'y a aucun problème. Dès qu'on fait l'effort, la démarche de faire des portes ouvertes ou des conférences, les gens répondent et ils sont là et tout se passe bien, quoi.
C'est d'ailleurs sans doute pour ça que vous faites autant d'actions vers le public, c'est pour que tout se passe bien par la suite, c'est ça?
C'est ça, voilà, pour expliquer notre travail, et encore une fois, parce que c'est notre mission d'expliquer ce qu'on fait. Voilà.
Donc là, on arrive sur... ça doit être la dernière question. Je me posais la question par rapport plus largement sur votre métier. Est-ce que c'est pas frustrant quelque part de se dire finalement que le site que l'on est en train de découvrir, ce qui doit être quelque chose d'assez intéressant quand même à faire, bah finalement on est forcément obligé de le détruire parce que il y a les fouilles qui se passent et que en plus de ça derrière ça va être il va y avoir une construction par-dessus et donc finalement le site ne sera plus là après. Est-ce que c'est pas quelque chose d'un peu décevant ou frustrant?
Bah en fait non, parce que déjà nous pour le fouiller on va le démonter. Pour comprendre un site, il faut le démonter. On va finalement le détruire, nous, par la fouille. Mais le fait de pouvoir faire ça, ça nous permet de le comprendre jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on peut démonter les choses, aller comprendre comment c'est fait, comment c'est construit, comment ça a évolué. Et puis, grâce à ça, on peut fouiller des grandes surfaces, on peut fouiller plein de sites archéologiques, et on fait avancer la recherche. Donc non, au contraire, il n'y a pas du tout de frustration. Et puis de toute façon, on n'est pas là pour geler un paysage, geler un... Voilà, le but c'est que ça continue à avancer. On n'est pas là pour arrêter les aménagements. Après, il peut y arriver qu'il y a des vestiges vraiment exceptionnels, mais souvent ils sont connus bien en amont, et il y a une action de préservation depuis le début, et en fait on n'a pas le droit de construire sur ces sites-là. Ça peut arriver que ce soit des découvertes fortuites, mais nous on ne vient pas tout de suite faire une fouille. On fait d'abord une vérification préalable. Ça permet de savoir s'il y a des choses, de dire combien de temps ça va est nécessaire de fouiller pour comprendre ces choses-là, combien ça va coûter, etc. S'il y avait quelque chose dès le début qui paraissait gros, ce serait gelé dès le début et les projets d'aménagement seraient transformés, arrêtés, etc. Mais en fait, ça n'arrive quasiment jamais. Nous, on préfère aller fouiller, en fait. Ça permet de faire avancer la recherche. Donc, il n'y a pas du tout de frustration là-dessus. Voilà, on peut être frustré des fois de ne pas avoir assez de moyens ou assez de temps pour faire bien les choses. Ça, c'est un autre problème, mais ça, c'est un problème de moyens. Mais le fait de détruire, non. De toute façon, nous, on va détruire. Et quand on part d'un chantier, il n'y a plus rien. Voilà, c'est le but de l'archéologie. C'est destructeur, mais on détruit pour comprendre.
Très bien. Bien, merci beaucoup à vous d'avoir répondu à mes questions et de vous être prêté au jeu.
Merci à vous.